L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Renaud Bochard, économiste à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Avec lui, nous analyserons les risques majeurs qui pèsent sur l'économie mondiale dans le sillage de la crise bancaire qui s'est déclenchée à nouveau aux États-Unis ces dernières semaines, provoquant la faillite de plusieurs banques, sur fond d'une grave inflation qui s'est répandue dans le monde entier. Nous mettrons également l'accent sur les mesures que devraient adopter les gouvernements africains pour faire face à cette situation et renforcer la résilience et le développement de leurs économies. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Suite à la crise des subprimes aux États-Unis en 2007-2008 et la faillite de la banque Lehman Brothers, la Réserve fédérale américaine a créé en 2009 le quantitative easing, assouplissement quantitatif en français, qui est tout simplement la planche à billets pour sauver le système bancaire, rachetant elle-même des créances afin d'assurer la liquidité en dernier ressort dans le système financier. Toutes les banques centrales occidentales ont emboîté le pas à la Fed pour sauver le système, car à l'époque, on redoutait un risque de faillite généralisée des banques et donc l'effondrement de l'économie mondiale. Alors que ce dernier, c'est-à-dire le quantitative easing, était censé n'être que temporaire, les banques centrales ont continué d'utiliser jusqu'à aujourd'hui l'assouplissement quantitatif. Elles en ont fait un usage constant et même accéléré lors de la crise de Covid-19. Ainsi, alors que les taux nuls, voire négatifs à certains moments pratiqués depuis la crise de 2008, ont encouragé le gonflement de l'endettement public, les banques centrales se sont mises, par leur politique d'émission monétaire, à acheter des créances et à les conserver, amplifiant encore la création de l'argent facile. Selon les statistiques de la Fed, de 1915 à 2010, le bilan de la Banque centrale américaine est passé de près de 0 à 1 trillion de dollars, soit 1000 milliards de dollars. En 2009, lorsque l'outil du quantitative easing est inventé pour faire face à la crise financière, le bilan de la Fed est passé d'1 trillion à 5 trillions entre 2009 et 2018. Du jamais vu dans l'histoire de cette institution. Puis, entre 2020 et 2021, qui présente également une progression encore plus importante, passant de 4 à 9 trillions, c'est-à-dire 9 000 milliards de dollars, en presque une année dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Cette démesure est d'autant plus grave qu'elle a eu lieu dans un contexte déjà fortement laxiste sur le plan monétaire du fait des taux quasi nuls pratiqués depuis une dizaine d'années par la Fed. Les banques centrales savent parfaitement que leur politique n'est ni raisonnable ni soutenable. Par conséquent, in fine, elles procéderont tôt ou tard à la réduction de leur bilan et à l'augmentation des taux directeurs. Cela signifie qu'elles vont retirer de la liquidité des marchés financiers. Le changement de politique n'a commencé que depuis 6 mois et la Fed n'a réduit son bilan que de 500 milliards de dollars. Et ceci provoque déjà de grandes tensions sur les marchés financiers qui, à leur tour, font peser de graves risques sur l'économie occidentale et par transition mondiale, y compris sur le plan géopolitique et sécuritaire. Alors, pour parler de tous ces enjeux majeurs sur le futur proche de l'économie mondiale, j'ai le plaisir de recevoir Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Renaud Bouchard, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Oui, bonjour.
Alors, ma première question, pour vaincre l'inflation, les taux d'intérêt doivent être encore remontés. Les niveaux actuels, je crois que demeurent encore très insuffisants. Et pour cause, les taux d'intérêt réels demeurent négatifs à cause de l'inflation, c'est-à-dire les taux d'intérêt réels, justement, c'est les taux d'intérêt nominaux de la Banque centrale américaine moins l'inflation. Et alors que l'inflation, par exemple, dans les années 70, a été vaincue par des taux d'intérêt réels positifs. En effet, en 1980, Sous la direction de Paul Volcker, la Fed a fixé son taux directeur à 20% alors que l'inflation était à 13%. Alors, la question, pourquoi les banques centrales sont-elles constamment en retard sur la réalité, soit par incapacité réellement à comprendre ce qui se passe, soit pour faussement rassurer les acteurs économiques, espérer qu'ils abaissent leurs anticipations de hausse des prix. Et se sont-elles prises à leur propre piège, tel un serpent qui se mord la queue ?
C'est une excellente question. D'abord, je voudrais saluer tous vos auditeurs et puis vous remercier sur la pertinence en fait de votre analyse. Avec juste deux petits correctifs. Le premier, c'est que lorsque l'on parle des banques centrales, on parle actuellement uniquement des banques centrales, j'allais dire, du monde occidental. Il y en a d'autres qui, j'allais dire, sont moins sous les feux de la rampe, qui sont très discrètes, mais qui sont là aussi efficaces. Ce sont celles, tout simplement, de ce que j'appellerais l'autre monde, qui est, j'allais dire, la Russie, la Chine, et puis, en fait, les banques centrales de ces pays qu'on appelle les BRICS. Alors, dans la question que vous me posez, est-ce que les banques centrales sont en retard sur la réalité, soit par incapacité à réellement comprendre ce qui se passe ou pour rassurer les acteurs économiques, je vous dirais en fait tout ça à la fois. Mais les banques centrales, en fait, comprennent parfaitement ce qui se passe. Simplement, d'accord, à mon avis, je pense qu'elles jouent la montre parce que ce sont dans la réalité de grosses machines qui sont guidées par des routines, des habitudes qui concernent précisément les composantes de l'inflation et puis les politiques monétaires qui sont leur cœur d'activité. Mais en réalité, elles cherchent à reprendre la main en contrôlant de nouveaux actifs parce que ce sont des institutions qui sont extrêmement agiles. Alors, je voudrais juste une deuxième remarque, simplement pour clarifier un peu les choses, rappeler, en fait, puisqu'on parle d'inflation, dire qu'en fait, les définitions de l'inflation les plus couramment rencontrées sont, chacun peut le mesurer tous les jours, de portée plus générale, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se matérialise.
Absolument,
par
c'est la dépréciation de la valeur de la monnaie. J'ai dit que c'était la dépréciation de la valeur de la monnaie.
Exactement. Oui. Mais alors voilà, c'est que si on assimile l'inflation à la dépréciation de la monnaie, à la hausse des prix des biens de consommation, en excluant les hausses des prix qui affectent les valeurs patrimoniales, les capitaux, les actifs financiers, immobiliers en général, en fait voilà, je dirais que c'est une espèce d'abus de langage. Alors en fait, la réalité, puisqu'on parle de banque centrale, c'est que la totalité des banques centrales ont un objectif de politique monétaire, comme vous le savez, de ciblage de l'inflation. Et en fait, leur activité vise en fait la seule inflation des prix à la consommation, à l'exclusion notamment des inflations des actifs.
Ah,
mais
d'accord.
Voilà, il se trouve que les banques centrales, malgré les apparences, ce sont des banques comme les autres. Et la seule différence, c'est qu'elles sont adossées aux contribuables. Et que, à l'actif de leur bilan, je dirais que pour toutes les grandes banques occidentales, elles ont porté des crédits et donc des risques de manière totalement inconsidérée et imprudente, jusqu'à avoir en fait des bilans qui se sont démesurément gonflés dans un contexte qui est absolument terrible, une croissance mondiale qui est complètement en recomposition, avec une qualité en fait d'actifs qui est de plus en plus douteuse parce qu'elle repose uniquement sur la dette et sur le maintien en vie de tout ce qu'on appelle des activités d'entreprises zombies, avec le fait que le monde change, avec la globalisation et la coopération qui sont finies mais qui se redéfinissent d'autres manières. Et puis en fait, en réalité, des actifs qui pourraient penser à prendre, à considérer en fait que tout ça repose sur du vent. Or, et j'en aurais juste terminé là-dessus, d'accord, c'est que les banques centrales ne font pas faillite. Elles ont simplement le pouvoir d'émettre et d'imposer la monnaie, mais dans le fond, ça change à rien. Et les faillites des banques centrales se manifestent autrement, sous la forme, comme vous venez de le dire à l'instant, d'une destruction de la monnaie. Et alors donc, pour achever de répondre à votre question sur leur politique, on voit qu'elles sont en train de se recomposer, de se redéfinir vers la prise en main de nouveaux actifs. On voit par exemple, elles cherchent à saisir l'opportunité des crypto-monnaies pour réfléchir à de nouveaux systèmes qui risqueraient de masquer leur déconfiture. Et puis il y a aussi le fait que, tout simplement, elles cherchent d'autres alternatives. Quand on nous dit, par exemple, que le dollar américain qui s'affaiblit ne peut pas perdre son statut de monnaie dominante dans le monde car il n'y a pas d'alternative à l'horizon visible, c'est ce que dit un article très récent du Financial Times publié le 23 avril.
Absolument.
Ben, on aimerait comprendre alors pourquoi on assiste à une hausse de l'or, du cours de l'or de 20% en 6 mois, et on voit par exemple que tout le monde, en réalité, les gros acheteurs d'or sont les banques centrales qui réduisent elles-mêmes fortement leurs avoirs en dollars et qui cherchent tout simplement une alternative.
Mais monsieur Bouchard, moi aussi j'ai lu pas mal d'analyses sur ça. C'est-à-dire que, enfin, il y a beaucoup d'économistes qui s'évertuent surtout à utiliser les chiffres des statistiques. Donc, on nous dit que 85% des réserves monétaires dans le monde, c'est-à-dire pour les échanges commerciaux mondiaux, ils sont en dollars, 85%. Donc, mais ils disent donc que par rapport à ça, il est quand même pas sérieux, voire prématuré, de dire que le dollar va perdre sa position de domination sur l'économie mondiale. Mais moi, ma question, est-ce que, bon, outre le fait de ces statistiques, mais la dynamique qui est enclenchée, comme ce que vous voulez dire actuellement, est-ce que c'est cette dynamique, même si elle va prendre un petit peu de temps, est inéluctable?
Ah oui, je le crois parfaitement. Le mouvement est commencé et il ne s'arrêtera pas. Il risque simplement d'y avoir quelques soubresauts qui vont se traduire par, j'allais dire malheureusement, des conflits. Hein, voilà, mais je dirais que la bête est malade, mais elle se défend.
D'accord. Donc, elle n'est pas encore prête à rendre l'âme.
Ah non, pas du tout. C'est pas du tout son intention. D'accord. C'est pas du tout son intention, mais en tout cas, elle a parfaitement compris la nécessité et l'obligation dans laquelle elle se trouve de prendre en compte l'apparition dans le monde de nouveaux acteurs financiers internationaux, avec notamment le renminbi yuan, et puis avec le rouble, et puis tout simplement la reconstitution d'un autre monde, en fait, en réalité.
Avant de passer à la seconde question, j'aimerais bien que vous précisiez à nos auditeurs. Quand vous dites que les banques centrales ne peuvent pas faire faillite, est-ce que c'est parce qu'elles sont adossées aux États, et c'est-à-dire à l'argent public?
Tout à fait. Mais les États et l'argent public, ce sont les gens qui sont derrière. Ouais. Alors vous avez des États qui, eux, sont parfaitement pourvus, qui ont des ressources financières et des ressources, j'allais dire, matérielles qui sont réelles, et puis d'autres qui sont extrêmement fragiles. Si vous regardez, par exemple, je dirais, le système bancaire et financier totalement occidental, il est entièrement construit sur du vent. Alors que si vous regardez ce qui est en train de se passer, et c'est la force des nouvelles économies qui se mettent en place avec la Russie, avec la Chine, par exemple, qui ont des monnaies qui sont ce qu'elles sont, mais qui sont adossées sur l'or. C'est-à-dire que pour des réserves d'or qui sont absolument extraordinaires, la quantité d'or qui a été achetée par les banques centrales, par exemple, on le sait, a augmenté de, je crois, puisque vous citez une statistique, de 152% sur un an depuis 2022 pour atteindre 1136 tonnes. Et ça, ce sont des choses qui pas à l'opinion internationale. Les gens se disent, mais voyez, une monnaie avec des banques centrales qui ont, dans leur coffre des lingots, c'est des monnaies qui sont solides. Là, on raisonne de manière très simple. Tandis que d'autres monnaies qui sont bâties sur du papier, du vent, et qui ne cessent d'être remises en place ou défendues par justement la planche à billets, tout le monde a parfaitement compris que c'est un temps qui est déterminé, qui était fini.
Disons le dollar, même s'il n'est pas adossé, actuellement, il est juste adossé à une dizaine de porte-avions, de milliers d'avions bombardiers. À part ça,
les porte-avions, vu la technologie, j'allais dire, c'est peut-être pas quelque chose sur lequel je parierais fortement maintenant, c'est fini. Mais en tout cas, le dollar est adossé sur ce que je qualifierais d'être une économie de prédation.
Exactement.
C'est j'allais dire, la richesse du dollar, c'est la pauvreté et la confiance de tous ceux qui se sentent obligés, à tort ou à raison, d'utiliser en fait ce moyen de paiement et cette monnaie de réserve qui va être obligée de composer avec d'autres monnaies de réserve.
D'accord. Alors, la seconde question, monsieur Bouchard, pour faire un pas sérieux vers la résolution de cette crise, je ne sais pas, peut-être si vous serez d'accord avec moi, il va falloir abaisser le niveau général de l'endettement qui est arrivé à des proportions absolument astronomiques. 300 000 milliards de dollars de dettes publiques et privées dans le monde. Alors, mais la question, c'est que cela implique une certaine austérité sur le plan fiscal de la part des États, mais aussi une austérité de la part qui sera appliquée forcément aux ménages. Et Ceci mettrait certainement les entreprises dans l'incapacité à investir comme avant à cause de la baisse de la demande. Alors, aussi, le drame est que les populations à revenus modestes, dont beaucoup de pays, notamment européens, souffrent déjà et que leur pouvoir d'achat se détériore très vite. Alors que nous ne sommes qu'au début de ce grand renversement et resserrement des vis. Qu'en pensez-vous ? Et que doit-on faire pour avancer dans ce sens avec de moindres coûts économiques et sociaux ? Bien sûr, s'il y a une possibilité.
Il y a toujours une possibilité. Je vais vous faire une réponse qui peut paraître extrêmement simpliste, mais qui, à mon avis, repose sur un constat qui est certain. C'est que la solution, à mon avis, est de tout faire pour redonner, là je parle pour l'Occident, mais c'est quand même valable pour, comment dire, énormément de pays, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux gens en leur permettant de reconstituer la création de richesses individuelles et en offrant en fait aux acteurs économiques la possibilité d'agir. C'est-à-dire que dans des pays comme les pays européens, par exemple, et puis aussi on voit ça par exemple, j'allais dire d'autres grosses économies, il faut désormais éviter les économies de prédation. Vous avez en fait des structures étatiques qui, en utilisant en fait des impôts confiscatoires, on voit bien que ça coince partout. Pardonnez-moi la crudité de l'expression, mais c'est vraiment ça. Le système, en fait, est entré dans une espèce de blocage. Si vous regardez, par exemple, les retraites en France, on est à la recherche de 12 milliards d'euros de retraite. C'est une plaisanterie. Ouais. En revanche, les gens ont parfaitement compris que, en fait, leur avenir était un petit peu sombre. Et puis, tout le monde a compris la sensibilité à l'inflation. Tout le monde voit les prix. Tout le monde a surtout compris maintenant que, par éducation économique, les prix, ce n'est que la manifestation de la maladie. Et que la cause, c'est tout simplement la dépréciation, la valeur de la monnaie. Donc, on va vers des réajustements. Et la définition, en fait, des objectifs de réajustement pour pouvoir permettre, de repartir sur des revenus qui ne soient plus du tout modestes, c'est d'essayer de définir des objectifs en concertation avec toutes les populations. On ne fait rien en imposant les choses de manière brutale aux gens. Et ceci, ça se fait en amont et en aval. Ça se fait, par exemple, en aval avec une redistribution repensée, avec des circuits courts, avec aussi en amont une planification qui soit une planification indicative. On laisse aux gens la possibilité de travailler. Enrichissez-vous, vous enrichirez votre pays, et en enrichissant votre pays, vous vous enrichirez vous-même. Il faut renouer aussi. Alors, vraiment, vraiment en amont, je pense par exemple aux questions d'énergie, aux questions d'alimentation, et c'est d'ailleurs le sujet que vous allez aborder très certainement, eh bien, il faut renouer des relations économiques avec les gens avec lesquels on les a coupés et qui, j'allais dire, sont à l'origine des sources d'approvisionnement. Il faut rétablir et fluidifier les approvisionnements. Il faut rétablir les chaînes de valeur. Et je pense en fait que, d'un point de vue aussi bien macroéconomique que microéconomique, on raisonne en grand comme en petit, c'est en fait le seul moyen de pouvoir retrouver en fait non plus une détérioration du pouvoir d'achat, mais une reconstitution sur d'autres bases certainement, en fait d'une vie qui soit viable. Voilà.
D'accord. Alors la question suivante, c'est qu'actuellement aux États-Unis, on ne constate pas encore une baisse de la consommation à cause sans doute de l'épargne réalisée pendant le Covid-19 et des crédits à la consommation qui explosent en ce moment de l'autre côté. Alors, la situation reste cependant difficile et pour cause, selon des statistiques datant de 2022, 40% des entreprises américaines ont affirmé ne plus pouvoir payer leur loyer. Et conséquence de tout cela, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, la pauvreté progresse rapidement. Alors, le gros de l'inflation, Monsieur Bouchard, n'ayant pas encore été absorbé, est-ce que le pire de la contraction du pouvoir d'achat est à venir ?
Je vais vous répondre oui. Oui, certainement. On voit d'ailleurs que tout le monde est en train d'ouvrir les parapluies. On essaye de voir, par exemple, si vous prenez le cas de la France, on essaye de prolonger les boucliers fiscaux pour pouvoir permettre aux gens justement d'encaisser des chocs financiers sur le coût de l'énergie, sur le coût de l'alimentation. Enfin, c'est valable un peu partout. Vous évoquiez les États-Unis. les pays, les États-Unis, c'est un, je veux dire, c'est malheureusement un pays, il n'y a qu'à regarder dans des villes comme Los Angeles, comme San Francisco, où la débine est franchement générale avec tous les gens qui sont dehors, les homeless et autres. C'est absolument dramatique, en fait. Ouais. Pour le reste de, j'allais dire, du monde, je dirais que vous avez quand même une toute une partie en Asie du Sud-Est, où les situations, par exemple, sont différentes. Ça va très bien. En Afrique, on va y aborder la question tout à l'heure. Ça fonctionne aussi, bon an, mal an, mais ça fonctionne de manière très, très positive. Et alors, dans tous les pays, j'allais dire occidentaux, on va prendre la sphère européenne, par exemple, je dirais qu'en fait, le processus de inflationniste et la contraction du pouvoir d'achat est encore à venir. Et le processus est déjà largement commencé. À mon sens, il va s'accélérer. Et puis, il va y avoir, en fait, des grincements de dents, mais il va finalement se stabiliser entre ce que je pense être des réajustements économiques, financiers, sociaux et politiques. J'ai utilisé un mot que vous connaissez, parce qu'en fait, en tant que physicien, vous savez mieux que moi ce que c'est que l'homéostasie, mais ce sont des phénomènes qui finissent toujours par se rétablir, ça. Mmh. Bon, le problème, c'est qu'il y a des remous un tout petit peu avant, voilà.
Bien.
Je vois un peu les choses. Mais je veux juste rajouter une chose. C'est que, vous voyez, l'inflation, en fait... C'est ce que disait d'ailleurs M. Nikolai Tangen, qui est le directeur général du plus grand fonds souverain du monde, on y viendra peut-être tout à l'heure, fonds souverain norvégien. Il dit qu'en fait, on a quand même une inflation qui va être difficile à maîtriser. Hein, elle est consécutive à la hausse de prix obstinément élevée, à des faibles rendements, des investissements qui sont difficiles, des coûts de main-d'œuvre qui se répercutent sur la hausse des prix mondiaux. Enfin, bon, tout ça, ce sont les réels, justement. Enfin, voilà, c'était juste une petite observation. Voilà.
Monsieur Bouchard, c'est toutes ces questions-là de bouclier financier, de blocage des prix, mais ce sont encore aussi des facteurs qui s'accumulent derrière le rideau et qu'il va falloir après payer. Oui. Donc c'est juste un paiement qu'on remet à plus tard, qu'on retarde, mais en réalité la facture doit être à un moment ou à un autre payée.
Et, elle sera payée.
Et par quel moyen alors? Parlons d'être encore.
Eh bien par quel moyen vous êtes tout simplement, et il va y avoir un réajustement financier. Il va y avoir, par exemple, si vous prenez le cas de l'euro, par exemple, l'euro, c'est une monnaie unique, alors que ça aurait dû être une monnaie commune. C'est une monnaie dans laquelle, en fait, la plupart des membres qui l'utilisent n'ont absolument pas les moyens et les capacités pour pouvoir, en fait, l'utiliser tous les jours. On voit bien en fait qu'il y a des distorsions. C'est-à-dire que vous pouvez payer en euros en Grèce, vous n'avez pas le même pouvoir d'achat que si vous êtes en Hollande ou en Allemagne. Donc ça va être en fait un réajustement financier qui sera un réajustement financier interne. Et puis alors à l'intérieur en fait, par exemple, on évoquait par exemple les crédits à la consommation, l'épargne aux États-Unis par exemple, où tout le monde, mais il n'y a pas qu'aux États-Unis, tout le monde en fait a acheté beaucoup de choses après avoir gagné, s'engage dans des crédits à la consommation. Mais il y a un moment donné, il n'y a qu'à regarder le nombre de faillites personnelles qui est en train de se mettre en place, parce que les gens ne peuvent plus. Donc, autrement dit, ben, les prêteurs finiront par s'asseoir sur leurs créances, et puis les débiteurs, n'auront peut-être plus la possibilité pendant un moment de continuer à réemprunter quoi que ce soit. C'est totalement artificiel, tout ça.
D'accord.
Et on le voit par exemple, avec les questions immobilières.
On y arrive. Mais juste pour finir avec ça, il y a une chose qui m'intrigue un peu, c'est que l'inflation, à un certain moment, si les Allemands, par exemple, décident de dire qu'on en a assez et qu'il va falloir relever les taux pour eux, et en voyant aussi la contraction des exportations allemandes vers l'étranger, en dehors de la zone euro, qui se sont contractées à cause de la dépréciation, de l'inflation. Est-ce que, si jamais les Allemands passent à ça, c'est-à-dire le relèvement des taux d'intérêt, ou peut-être aussi la dépréciation de l'euro pour pouvoir réexporter, quel scénario pourrait se concrétiser pour le reste de l'Union européenne?
Chacun reprendra ses billes, ou tentera de le faire. Parce que il s'agira en fait de, ce sera le premier qui arrivera, au bateau de sauvetage. Voilà. Actuellement, d'ailleurs, on voit très bien que le navire a de l'eau dans les cales et tout le monde est en train de monter dans les ponts supérieurs. L'Allemagne est tout à fait capable de tirer la couverture et d'arrêter la comédie. De toute façon, quand on parle d'euro, on parle en fait de, comment dire, de marque.
Oui, voilà. De Deutschmark.
Ouais. Ouais, exactement. C'est tout, le reste, c'est jamais plus qu'un habillage totalement cosmétique. Voilà. Okay. Donc, il n'est pas du tout exclu qu'effectivement, ben, on peut le faire, on peut le penser, hein, que les Allemands décident de jouer cavalier seul. Enfin, je ne sais pas trop. En fait, pour le moment, ils ont des problèmes d'énergie qui sont assez solides. Mais en tout cas, je pense que c'est effectivement, c'est une option qui n'est pas à écarter.
D'accord. Alors, conséquence inévitable, le secteur immobilier va entrer sous peu dans une période de dépression aux États-Unis, tout comme dans certains pays européens. Et l'éclatement de la bulle immobilière, comparable à celui qui suivit la crise des subprimes, semble aussi se profiler. Alors, êtes-vous d'accord avec ce scénario? Qu'en pensez-vous? Et si une telle crise venait à éclater aux États-Unis ou en Europe, quel impact aura-t-elle sur le pouvoir d'achat des ménages?
En fait, la crise immobilière a commencé. Et je pense en fait que l'impact risque d'être catastrophique. Vous avez trouvé que j'ai une vision un petit peu un petit peu terrible des choses,
non,
mais je
non,
ne suis pas
réaliste.
Réaliste.
Voilà. Hein. J'ai dit, il faut regarder les faits. C'est pas une question d'être pessimiste ou optimiste.
Voilà. Non, mais je donne peut-être cette impression-là, mais je dirais simplement que personne ne va échapper au tsunami. Tout le monde va se retrouver à nager dans la piscine, plus ou moins bien. On va surtout assister à une remise à zéro de tous les compteurs. Je dirais aussi bien pour les riches que pour les pauvres, avec des degrés, des amplitudes qui frapperont tout le monde sans exception. Si vous regardez par exemple en matière, vous parlez de spéculation immobilière, de crise immobilière, par exemple aux États-Unis, on voit par exemple comment aux États-Unis il y a un fonds d'investissement immobilier, je ne sais plus trop lequel, qui a récemment fait défaut sur à peu près 750 millions de dollars d'hypothèques pour simplement deux gratte-ciel qui sont dans la ville de Los Angeles. On voit par exemple comment des sociétés de capital investissent. Réduisent de très grandes portions la valeur de leurs investissements dans les biens immobiliers, dans les quartiers de bureaux. Toutes les villes américaines en fait sont soumises à de fortes tensions depuis que la pandémie de la COVID-19 a vidé les lieux de travail. Voilà. Mais là, ce qu'on voit, c'est que maintenant, la crise est entrée dans une phase extrêmement tendue qui va, de manière certaine, nuire à la fois aux économies locales, les banques locales, et causer des difficultés financières aux investisseurs immobiliers et à des dizaines de banques beaucoup plus importantes. On voit des prêteurs qui sont de plus en plus réticents à accorder de nouveaux prêts d'acquisition propriétaires d'immeubles et de bureaux. Enfin voilà. Bref, ça va très mal en fait. Hein. On voit actuellement, par exemple, c'est un chiffre que j'ai vu récemment, il faudrait le vérifier, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, les propriétaires doivent refinancer environ 137 milliards de dollars d'hypothèques qui ont été prises simplement sur l'immobilier professionnel. En fait, pour résumer, je dirais que un peu partout, hein, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, hein, les propriétaires sont confrontés simultanément en fait à ce que j'appellerais un ralentissement cyclique du marché, et puis à des changements dans la façon dont les gens travaillent, vivent et font leurs achats. On voit par exemple comment la flambée des taux d'intérêt fait chuter la valeur des propriétés, alors que, comme vous le savez, l'essor du travail à distance, du commerce électronique ont réduit la demande d'espaces de bureaux et de commerce de détail. Vous avez des centres commerciaux entiers qui sont complètement vidés. Quoi. Voilà, c'est un monde qui change. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est comme ça. On va passer sur autre chose. Quoi. C'est tout. Il y a simplement des sociétés immobilières et du capital investissement qui vont faire défaut. Hein. Ce ne sera pas la première fois sur des prêts qu'elles ont consentis. Voilà. Quoi. C'est,
d'accord.
C'est le grand ménage. Hein.
D'accord. Bon,
si vous regardez par exemple, oui. juste une chose, j'en ai pour deux secondes, les transactions immobilières commerciales en Europe par exemple, hein, on sait qu'elles ont atteint leur plus bas niveau en 11 ans. Il y a eu en fait une chute de valeur des propriétés commerciales qui est absolument extraordinaire. Et regardez par exemple l'effondrement du Crédit Suisse par exemple, oui. ça a été... c'est une surprise pour quelques-uns, mais c'en est pas une autre pour d'autres. Hein. On savait que c'était... Il n'y a pas que le Crédit Suisse. Hein. Vous avez le marché du crédit japonais, par exemple, avec un énorme hôtelier qui s'appelle Unizu Holdings, qui en fait j'allais dire, à déposer le bilan, tout simplement. Et là, comme le disait le journaliste Ambrose Evans Pritchard, la moitié des banques américaines, par exemple, mais il y a aussi le cas en Europe, hein, sont potentiellement insolvables. C'est comme ça que commence une crise de crédit. Ouais.
D'accord. Ben, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Renaud Bouchard pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité, Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Je vous salue à nouveau et merci pour votre patience. Alors, l'autre victime de la hausse des taux est l'État fédéral américain qui n'arrive plus visiblement à financer ses déficits au fur et à mesure de l'augmentation des taux auxquels il emprunte pour rembourser ses dettes passées. Alors, on voit bien que plus les taux augmentent et plus il faut d'argent pour rembourser les vieux crédits. Et l'État fédéral est dans une situation dramatique car les charges et ses remboursements ont explosé et la dette publique américaine a triplé depuis 2008. En 2008, le risque venait des banques, donc, et s'était propagé vers les ménages et les entreprises, mais actuellement, aujourd'hui, l'État était l'épicentre du risque qui, en même temps, doit assurer la survie de l'économie réelle via les plans de relance et ainsi de suite, mais en même temps, une période de hausse de taux plus longue que prévu. Alors, Monsieur Bouchard, la hausse de la rémunération des CDS observée, c'est les crédits default swaps ou les assurances contre les défauts de paiement sur les marchés américains, n'annonce-t-elle pas que les investisseurs anticipent au moins ou au moins envisagent la possibilité d'un défaut de paiement du gouvernement des États-Unis?
Oui, je vais vous répondre de manière positive. Mais en fait, on a cette réponse positive en écoutant, par exemple, les propos de Monsieur Jake Sullivan. Monsieur Jake Sullivan, je le dis pour vos auditeurs, c'est le conseiller à la sécurité nationale du président Biden, et qui très récemment a réclamé, les termes sont quand même très forts, pour j'allais dire pallier la situation financière que connaît les États-Unis. Et bien tout simplement, il demande la mise en place d'une économie de guerre. Depuis plusieurs décennies, le système américain financier, économique, est en train de buter sur les limites du régime capitaliste financiarisé. Je m'explique. C'est que on voit, c'est un peu partout d'ailleurs, la croissance est devenue séculairement faible, les investissements réellement productifs sont un peu médiocres, la productivité chute, je dirais encore les allocations des facteurs de production sont tout à fait inefficaces. Enfin, bref, c'est un cadre analytique que vous connaissez, qui n'est en fait que la conséquence de la fin de ce grand cycle qui a pris naissance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui arrive en achèvement. C'est-à-dire qu'en fait, le grand cycle du crédit qu'on connaît, c'est ce qui fait marcher toute une économie, a touché les limites depuis un bon moment et il joue les prolongations. De sorte qu'en fait, l'Amérique s'enfonce et qu'elle ne fait illusion encore au monde entier que par en fait l'image qu'elle veut bien donner d'elle-même. Mais elle se noie dans l'imaginaire, les gens finissent par croire à la pensée magique. Elle croit imposer aux autres en fait une réalité alors qu'elle en est la première victime, je dirais, en raison de son inadaptation aux défis du monde réel. Et puis, à peu, on vit dans un monde qui est imaginé. Et la financiarisation qui a été mise en place, même pour faire fonctionner un pays, dans les années 80, pour prolonger le système, a fait son temps. Et on arrive, en fait, à un immense dysfonctionnement, parce que la spéculation a pris le dessus sur les décisions justes et rationnelles. Et puis, elle a fracassé la société sur le poids des inégalités. On a un tissu social qui se délite, des clivages qui sont extrêmement profonds. Et en fait, c'est un pays qui, comme j'allais dire, les grandes économies de marché, d'une certaine manière, est devenu un peu ingérable. On voit très bien, par exemple, la nécessité de mettre en place, en fait, une espèce de nettoyage. Mais ça va être très difficile et ça va se faire tout seul. On voit par exemple la, comment dire, des premiers indices d'une certaine faillite, c'est la prise de contrôle de la Republic Bank, la First Republic Bank, par comment dire, la banque JP Morgan par exemple. Mais c'était une opération en fait absolument nécessaire pour sauvegarder la stabilité financière et bancaire, et puis pour essayer de colmater les brèches d'un navire qui prend l'eau. Là, actuellement, dans tout le système financier américain, on est en train de pomper et décoper pour essayer de maintenir le Titanic. C'est ce qu'explique M. Sullivan. Il y a quelques jours, par exemple, vous avez eu la banque de la Silicon Valley qui a été reprise, alors qu'en fait, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un déficit qui était absolument gigantesque. Et alors, là j'en aurais terminé sur ce point, c'est qu'en fait, le système est de plus en plus obéré, il est déséquilibré, il est devenu insolvable. Mais il tient encore parce que, peu à peu, bien, tous les risques qui sont inclus dans le système sont externalisés, ils remontent au niveau de ce que j'appellerais, comme le fait d'ailleurs M. Sullivan, ce couple maudit que constitue la Réserve fédérale, le Trésor, avec ses satellites que sont les government-sponsored entreprises qui tournent tout autour, voilà. Donc en fait, le système américain va être obligé de s'enfoncer dans des contrôles, dans des entorses aux lois, dans des exceptions à la loi du marché. Il ne peut plus supporter en fait les règles du jeu qu'il a fixées lui-même, c'est-à-dire en fait la lutte contre les monopoles, la vérité des prix, la liberté des choix, et puis surtout en fait, il ne peut plus tolérer les conséquences du libre fonctionnement des marchés. Alors, on est en fait dans une situation qui est extrêmement difficile. Vous retrouverez toutes ces choses-là. C'est le discours de M. Sullivan à la Brookings Institution, par exemple, qui a été publié sur le site lui-même de la Maison-Blanche. Mais bon, tout ce qui constitue en fait les briques du mur financier américain, du système monétaire international, sont entièrement à revoir. Je pensais par exemple aux obligations d'État américaines, par exemple. Ça, c'est vraiment... c'est un sacré problème. Ça, c'est plus personne n'en veut, on va passer à autre chose. Vous avez ma réponse. Ouais.
Donc, c'est la seconde question, parce que les obligations d'État américains sont la base et les murs porteurs de tout le système financier et monétaire international.
Et vous avez raison, oui.
Et donc, dans le cas actuel, avec l'inflation, avec la dépréciation de leur valeur, risque-t-on une dépression mondiale à l'image de celle de 1929? Et la Fed et les autres banques centrales ont-elles encore les moyens d'y faire face ou recourront-elles encore à la planche à billets? Et puis dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire ça, cette économie de guerre? Est-ce qu'on choisit la guerre comme solution? C'est quoi le plan?
Vous savez que le dilemme des puissances d'argent, ça a toujours été, vous évoquiez la crise de 29, c'était de choisir entre l'instabilité sociale et l'instabilité financière. Et pour gagner du temps, eh bien, on fait la guerre. Et en fait, les événements auxquels on est en train d'assister actuellement, ou de participer pour certains, sont en quelque sorte, en fait, la carapace qui recouvre la situation actuelle.
Absolument.
Il y a des éléments qui sont à prendre en compte, qui sont bien sûr différents de ce que nous avons pu voir en 1929, mais pour certains qui sont toujours là. C'est que, tout d'abord, le régime de l'accumulation de capitaux à l'échelle mondiale est en train de buter sur le besoin insatiable de profit. Puis ensuite, le fait que la rareté du profit met une limite à l'accumulation du capital, que les crises se multiplient, que cette expansion de la finance a produit de manière organique des inégalités de plus en plus colossales. Je dirais que la finance enrichit ceux qui sont déjà riches et appauvrit encore plus ceux qui sont déjà pauvres, et que cette progression, que je qualifierais d'exponentielle des inégalités, met tout simplement en péril la stabilité politique et sociale du système. Alors, on parle toujours de lutter contre les inégalités, mais ce que je vois surtout, c'est que les stratèges du capital les plus avisés savent que ce serait en fait tout simplement la fin de la financiarisation, puisque ce serait réduire, j'utilise vraiment le mot à dessein, la profitabilité que la financiarisation s'est acharnée à maintenir contre vents et marées. Mmh. Voilà. Alors, le dilemme des puissances d'argent, on choisit entre l'instabilité sociale, l'instabilité financière et la guerre. Alors, je m'explique. Face à la rareté prévisible des ressources, ça a toujours été en fait une constante depuis l'histoire de l'humanité, il y a la guerre. Et aujourd'hui, il y a la guerre par procuration de l'Occident à la Russie. Et c'est le mode de résolution de problème de la rareté qui a été choisi. Mais on aurait pu en choisir un autre. Parce que la guerre en Ukraine, c'est jamais plus qu'en fait, l'outil qui a été utilisé. Mais ça recouvre autre chose. Et en fait, cette autre chose, c'est tout simplement, en fait, les symptômes de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et on passe de crise en crise. Vous voyez, vous évoquiez la crise de 29. Eh bien, en fait, le système capitaliste, qui est un outil absolument formidable aux deux sens du terme, c'est-à-dire qui fait peur, mais qui aussi est fascinant, le système capitaliste, c'est un système qui se bat et qui est en lutte permanente et qui se démène pour durer depuis plusieurs décennies, en fait, en réalité, un peu comme il l'a fait dans les années 30, parce qu'il a été confronté à cette crise terrible et qu'il est arrivé sur la guerre. Mais il a touché, en fait, les limites internes d'accumulation. Il va de crise en crise, il devient chaotique avec de moins en moins de légitimité et d'efficacité. Et alors, il est obligé de prélever, de consacrer des ressources durables pour durer. Et ça, c'est absolument terrible. Et alors, instruit par l'analyse de ce qui s'est passé dans les années 30, lors de la grande crise, le capitalisme, on l'a vu par exemple en 2008, mais on va le voir maintenant, bientôt, a toujours voulu en fait échapper à la situation qu'il a lui-même créée par la finance. Et il a tout simplement truquer l'histoire. Il a fait croire que la grande crise, par exemple, de 29, était survenue parce qu'on n'avait pas créé assez de monnaie et de crédit. Et donc, cette fois-ci, il a fait l'inverse. Mais le résultat est simple, c'est qu'on s'est noyé dans la monnaie de crédit et la finance. Voilà. Et en fait, le capitalisme s'est financiarisé pour lutter contre la chute de la profitabilité par l'expansion de la finance, la production de produits financiers fictifs. L'expansion de la finance produit organiquement des inégalités, puisque ce sont déjà riches qui s'enrichissent, c'est une conséquence incontournable. Et réduire les inégalités détruirait le capitalisme financier. Donc on va trouver autre chose. Et le autre chose, c'est pour les grandes banques, par exemple, c'est ou d'accepter la poursuite de l'élargissement des inégalités avec des risques sociaux et des politiques qui vont avec, ou bien accepter de prendre le risque d'une crise du capitalisme, celle des années 30. Et entre-temps, ben, on n'a pas encore tranché. Si, enfin, d'une certaine manière, on retarde en fait la solution finale en faisant la guerre. Et la Fed et les banques centrales ont-elles encore le moyen de faire face ou recourront-elles à la planche à billets? Je crois qu'en fait, elles utiliseront tout. Elles utiliseront tout et pour le moment, elles sont en train de se cacher derrière l'affirmation que le système bancaire est solide. Voilà. Et ça ne tient pas.
Est-ce que oui, Monsieur Bouchard,
comment là?
Oui. Est-ce que c'est ça justement, parce que ce que vous venez d'expliquer est extrêmement important, est-ce que c'est ça qui explique la hausse de toutes les dépenses militaires que nous avons vues? Il y a un récent rapport du CIPRI, du centre de recherche sur la paix de Stockholm,
oui.
Qui parle d'une hausse sans précédent en 2022, plus de 2400 à peu près, si je me rappelle bien, milliards de dollars de dépenses militaires. Est-ce que c'est le choix de la facilité qui justifie ces dépenses?
Je pense que oui, parce qu'en fait... quand on parle d'un complexe militaro-industriel, on s'aperçoit qu'il y a tellement plus facile de gagner de l'argent d'un seul coup en se lançant dans une production militaire. On voit par exemple, tout le monde parle actuellement en actualité internationale à propos de la guerre en Ukraine, cette très grande offensive qui n'en finit plus de se préparer. Mais on a fini par comprendre, par exemple, que du côté de l'OTAN, il y avait un très sérieux manque de munitions, par exemple. On sait maintenant, par exemple, que pour relancer un programme d'armement et de munitions, il va falloir 2 ans ou 3 ans, par exemple. Les réserves de matériel militaire, comme les Stinger, par exemple, qui ont été fournis par les États-Unis à l'Ukraine, sont quasiment épuisées. Voilà. Donc, enfin, les arsenaux sont... Je ne dirais pas que les arsenaux soient vides, mais enfin bref, il va falloir reconstituer en fait les stocks. C'est le choix le plus simple et c'est absolument extraordinaire. Vous relancez toute une industrie, il y a tout à créer là-dedans. Donc, je réponds à votre question. Oui, la réponse, oui. Malheureusement, mais d'autres pays vont faire d'autres choses totalement différentes.
D'accord.
Il va falloir produire des matières premières, il va falloir produire de l'alimentation, il va falloir... Il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça se passe, hein. Il n'y a pas qu'en Europe, il y a d'autres continents.
Absolument. Hein. Alors, pour rebondir sur votre dernière phrase, quid de la situation dans les autres régions du monde, notamment les pays émergents comme la Chine et en Europe et en Eurasie, et qu'en est-il de l'Afrique ? Donc, en particulier, dans le contexte de l'émergence de plus en plus forte des BRICS.
Alors, les BRICS, c'est rien que ce soit le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, mais il va y avoir d'autres pays qui vont se joindre en fait à cette constellation. C'est la grande, comment dire, percée géopolitique, géofinancière, géoéconomique du 21e siècle, à mon avis. Hein. Mm-hmm. Bon, parce que ce sont des pays qui sont des pays géants, et dans lesquels vous avez en fait une très grande partie de l'humanité, tout simplement. Hein. Vous savez ce que disait Jean Baudin, il n'y a de richesse que d'hommes. Voilà, ben alors on y est parfaitement là-dedans. Alors vous me posez la question, quid de la situation dans les autres régions du monde, les pays émergents, la Chine, l'Europe et l'Eurasie. L'Eurasie, c'est la Russie. Là, il y a le grand pivot, on va vers l'Est. L'Europe, ben, on va laisser l'Europe se redéfinir. La Chine est devenue, d'une certaine manière, elle a quitté son statut, en fait, d'usine du monde pour devenir maintenant ce qu'elle était déjà, en fait, au XVIIIe siècle, qui a été un peu éclipsée. Et ben, elle redevient, en fait, le milieu du monde, l'empire du milieu. Et on voit, en fait, ce qui est en train de se passer avec, ben, avec l'Afrique, qui est l'objet de l'intérêt de beaucoup d'anges gardiens qui sont animés de, j'allais dire, d'intentions plus ou moins pacifiques ou plus ou moins désintéressées, hein, voilà, qu'il s'agisse effectivement des États-Unis, de l'Europe, de l'Inde, de la Chine. On voit par exemple comment j'allais dire des pays comme la Chine sont en train de se doter en fait d'instruments de puissance qui sont extrêmement importants, notamment par exemple le yuan chinois qui est lentement mais sûrement adopté pour davantage de paiements internationaux et qui est en train de probablement de jeter les bases d'un système commercial parallèle au dollar américain, par exemple. Oui. Vous voyez, les transactions transfrontalières qui ont été réglées en yuan avec la Chine, par exemple, ont dépassé en leur montant en dollars pour la première fois dans l'histoire. Vous avez des pays, par exemple, je peux entendre le cône sud-américain, comme l'Argentine, qui a déclaré qu'elle visait à payer régulièrement des marchandises chinoises en yuan et en dollars. Autrement dit, vous voyez comment, en fait, avec le rythme soutenu d'accords bilatéraux qui organisent des paiements avec la Chine, tout est en train d'être comptabilisé dans une autre monnaie. Ça va des achats de pétrole chinois au Moyen-Orient, au commerce avec des partenariats très solides comme le Brésil, comme la Russie. Enfin, voilà. Alors, ce sont des, comment dire, c'est une véritable adoption mondiale du yuan est peu probable, hein, compte tenu des attentes selon lesquelles la Chine voudra garder l'emprise sur sa monnaie. Mais je pense que des progrès réguliers façonnent déjà une nouvelle architecture commerciale et que le phénomène est en train de s'accélérer. Par exemple, le fait, par exemple, que la Russie ait été expulsée d'une grande partie des systèmes de paiement occidentaux a accéléré avec succès d'ailleurs le développement d'alternatives. Et des pays comme la Chine, la Russie, le Brésil, les BRICS sont en train d'attirer par leur coopération d'autres pays vers tout simplement ce qu'a révélé les plaques tournantes de règlements sur les marchés d'échange, par exemple. Hein, on a vu comment, par exemple, les accords qui sont mis en place avec l'Iran et l'Arabie Saoudite, par exemple. On voit l'internationalisation de nouveaux flux commerciaux qui sont dominés en fait par d'autres approches. Vous voyez, c'est alors si on est toujours sur la Chine, je passe maintenant sur l'Afrique un tout petit peu. Toujours avec par exemple le renminbi, on voit comment 14 pays africains souhaitent voir le renminbi devenir une devise de réserve et élargir son utilisation sur le continent africain. Et c'est vraiment en train de bouger. Et il y a, comment dire, la vraie question, c'est est-ce qu'on va avoir de nouveaux instruments de paiement, d'une nouvelle monnaie de réserve, des alliances économiques? Je vous réponds oui, tout simplement. Regardez, par exemple, la montée en puissance de l'Organisation de la coopération de Shanghai, par exemple. Et je me réfère à un article qui date il y a une dizaine d'années maintenant, qui était de Nazim Barma, passionnant, j'invite vos lecteurs à le trouver sur Internet, qui s'intitulait « A World Without the West ». Ben, le grand pivotage a eu lieu. Et,
on par est rapport au cinéma, à ça, monsieur,
un spectacle total, hein.
Par rapport à ça, monsieur Bouchard, ce que vous venez de dire, est-ce que ce basculement de beaucoup du commerce des hydrocarbures, le gaz et le pétrole notamment russe, donc qui s'échangent avec d'autres monnaies hors dollar, est-ce que cela ne peut pas être un autre épicentre qui pourrait aggraver la crise, vu que les pétrodollars sont aussi un des piliers du système financier? Est-ce que ce basculement ne risque pas de faire apparaître des milliers de milliards de dollars dans les circuits aux États-Unis et qui pourront aggraver l'inflation?
Moi, actuellement, si j'étais un pays pétrolier, je quitterais l'idée du pétrodollar, je me rapprocherais d'autres monnaies extrêmement solides, par exemple, qui sont adossées à l'or, par exemple. Vous verrez que, d'ailleurs ça a déjà commencé, vous verrez qu'il y aura en fait des paiements internationaux d'énergie fossile qui vont se faire de plus en plus en fait en yuan et en rouble. Hein. C'est déjà commencé d'ailleurs. Hein. Pétrodollar, c'est un monde ancien, ça, maintenant. C'est terminé, ça. On va passer sur autre chose, hein. C'est,
D'accord.
Non, naturellement, alors, que vont-ils devenir? Ah, écoutez, je ne sais pas.
Allah est grand, comme on dit.
Exactement. C'est ce que disait Allah. Alexandre Vialat pour terminer ses chroniques. Et c'est ainsi qu'Allah est grand.
Ouais. Et alors, les chaînes d'approvisionnement, Monsieur Bouchard, et de production pourront-elles se prémunir de cette situation dans le monde avec le renchérissement des coûts de l'utilisation du dollar?
Oui, totalement. Simplement parce qu'on assiste à un changement d'instrument de paiement et de monnaie de réserve. D'accord. Et d'alliance économique. Je vous parlais des BRICS, des accords entre l'Iran, l'Arabie Saoudite. Vous avez l'Inde qui est en train de monter en puissance, l'Organisation de la coopération de Shanghai. C'est vraiment ça, hein. Et d'ailleurs, ça va se passer partout. Hein. Vous avez le Proche-Orient, vous avez le Moyen-Orient. Regardez des pays, par exemple, comme la Turquie, par exemple, qui vient de découvrir et mettre en marche un énorme gisement de gaz au large de ses côtes dans la mer Noire, et qui a clairement affiché maintenant un nouveau rôle géopolitique, géo-économique à son niveau. Mais enfin, je veux dire, c'est un...
Déjà, elle s'est même très bien positionnée parce qu'elle devient le hub d'exportation du gaz russe vers l'Europe, hein, via le Turkish, vers le Turkish Stream.
Oui. Exactement, exactement. Et puis, il y a d'autres réserves gazières qui sont en fait dans le bassin oriental de la Méditerranée, là, qui sont déjà mises en exploitation par Israël, par exemple, au large de Chypre, par l'Égypte, au large du delta du Nil. Enfin, toutes ces choses-là sont, on voit bien. Enfin, là, en matière de chaîne d'approvisionnement, de production, alors qu'il n'y a pas que l'énergie, hein, il y a tout simplement l'eau, il y a l'alimentation, l'eau et l'alimentation. Jetons un œil sur le continent africain, hein, 54 pays, bientôt 2 milliards
justement,
d'habitants.
Justement, c'est la dernière question. Je voulais vous poser la question sur la situation en Afrique et donc dans tout ce contexte mondial. Et que devraient faire les gouvernements, à votre avis, de ces pays pour assurer la résilience de leurs économies et leur développement?
Alors, pour répondre à votre question, que devraient faire les gouvernements pour assurer, par exemple, la résilience de leurs économies? Ben, je vais vous répondre. Simplement retrouver, c'est-à-dire ce sont des efforts qui sont déjà mis en place, retrouver une souveraineté financière et économique à la fois régionale, mais à la fois continentale. Et vous voyez, par exemple, on assiste auprès de l'Union africaine, qui a récemment prescrit la rationalisation de processus d'intégration économique régionale en vue de la création d'un vaste marché continental. Vous avez très récemment les États d'Afrique centrale qui ont décidé de concentrer tous leurs efforts et les moyens en refondant des institutions, par exemple. La création, par exemple, récente de la zone de libre-échange continentale a accentué cette nécessité. Elle a surtout, en fait, pris en compte une réalité et accéléré, par exemple, le processus de fusion que connaissent bien vos auditeurs, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la fameuse CEEAC, et la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC. Hein, c'était, j'allais dire, ce sont des réalités qui sont devenues maintenant majeures. Et puis, si vous remontez un tout petit peu dans le passé, on va pas tellement loin, l'année dernière, c'était au mois d'avril 2022, c'était à Addis Abeba, il y a une grande conférence qui a montré comment la zone de libre-échange continentale africaine avait décidé, et c'était un constat, de stimuler le commerce intra-africain d'environ 40% avec des agences substantielles, des avantages substantiels pour des secteurs de transport qui sont en fait. Donc autrement dit, là, il y a, j'allais dire, des autorités politiques qui ont pris en compte en fait une réalité économique et une croissance qui s'est imposée d'elle-même. Et alors, si vous regardez le groupe de la Banque africaine de développement, par exemple, là, je me réfère ici à son rapport performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique. C'était à Abidjan l'année dernière, ça, ou tout récemment, je sais plus exactement. Eh bien, on sait maintenant que la croissance économique de l'Afrique devrait dépasser celle du reste du monde au cours des deux prochaines années avec un produit intérieur brut réel d'environ 4% en moyenne en 2023-2024. Hein, ce sont des réalités. Et vous voyez par exemple comment les cinq économies africaines les plus performantes de la période pré-pandémique, après Covid-19, elles-mêmes devraient, on va voir ce qui va être dans la réalité, hein, la réalité va confirmer les chiffres, devraient connaître une croissance de plus de 5,5% en moyenne en 2023-2024 et de se retrouver parmi les 10 économies les plus dynamiques du monde. Et ces pays, je les cite, ce sont le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Éthiopie, qui est un géant démographique et économique, la Tanzanie aussi, et d'autres pays africains vont connaître eux aussi une croissance supérieure à 5,5% au cours de la période de 2023-2024. La République démocratique du Congo, par exemple, d'autres pays dont on ne parle que très peu, comme la Gambie, mais aussi, par exemple, la Libye, le Niger, et puis le Sénégal, et même le Togo. Alors, ce rapport, en fait, a été confirmé par, sur sa teneur, par les compliments de l'économiste Jeffrey Sachs, par exemple, du directeur du Centre pour le développement durable. Vous voyez. Autrement dit, on voit comment, je me réfère encore à ce rapport-là, comment, en procédant à une analyse complète de la croissance régionale, bien que les régions africaines que j'ai citées soient confrontées à des difficultés qui résultent de chocs socio-économiques mondiaux, elles ont très probablement en réalité surmonté en fait ces difficultés. Vous avez 54 pays d'Afrique qui ont affiché une croissance positive et les cinq régions du continent sont résilientes avec perspectives stables à très très moyen terme. Mais je vais aller beaucoup plus loin, là j'en aurais terminé sur cette question-là. Mmh. C'est très probablement, pour le développement économique de l'Afrique, la manière de surmonter les difficultés économiques que rencontre le continent. Vous voyez, c'est ce que rappelait récemment Monsieur Munashe Matambo, qui est un chercheur au Centre de recherche et de développement scientifique du Zimbabwe, qui disait par exemple que au moins 24 pays africains, dans le Botswana et le Zimbabwe, ont créé ou envisagent de créer des fonds souverains. Et ouais. Vous avez 117 fonds souverains actifs ou en projet actuellement dans le monde qui gèrent un peu plus de 9100 milliards de dollars d'actifs, vous voyez, qui sont en fait des puissances financières qui sont extraordinaires. Et en Afrique, si je songe par exemple à une réussite financière dont on ne parle jamais, mais qui est réelle, ça se voit tout simplement dans le niveau général de vie de la population. C'est le Pula Fund du Botswana, par exemple, qui, d'accord, lui, est géré de manière rigoureuse et bien administrée. Alors ça, ce sont vraiment des moteurs de la stabilité financière, le lien entre le pouvoir du marché, l'efficacité des banques au sein de la communauté d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est. j'allais dire, affichons le drapeau de l'optimisme parce qu'en fait, c'est tout simplement la réalité. Hein. C'est, voilà, je suis très confiant là-dessus.
D'accord. Ben, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question cruciale de la crise mondiale multidimensionnelle, ses enjeux et ses effets négatifs sur le développement en général. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
À très bientôt. Merci.
C'était Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.